Vous écoutez
RMC.
RMC.
De Donnarumma, le digne héritier de Bass, Lama et de tant d'autres.
Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
Verratti, il a tué la baraque et puis Marquitos.
Ousmane, l'écran Pandore.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Le titre de champion de 85.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
Salut à tous et à tous, bienvenue sur RMC. L'after continue jusqu'à minuit pour analyser les résultats, l'actualité du jour. On va évidemment longuement débattre autour du match nul assez miraculeux décroché par le Paris Saint-Germain à Lille. De partout, ça s'est joué dans les dernières minutes au stade Pierre-Mauroy. L'after à écouter à la radio, à regarder sur la chaîne YouTube de l'after et sur la chaîne After Télé. Et dans l'after ce soir, Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Walid?
Très bien, on a eu un gros match de Ligue 1. Après le Rennes-PSG, encore un match à rebondissement, donc on est très content.
On est servi les vendredis soirs pour l'instant aussi.
Oui, vendredi soir, ouais. Strasbourg, Marseille-Strasbourg 4-0 la semaine dernière. On est bien, on est dans notre Ligue 1.
Avec un beau programme vendredi
c'est
prochain.
C'est mieux que le samedi soir, quoi.
Pour l'instant, c'est un peu plus intéressant.
J'ai très
pour l'instant.
Peur de demain.
On verra. On sera là, évidemment, demain soir. Maxime Chano est là également dans l'after. Salut Maxime.
Salut Jérôme, salut Walid, salut à tous.
Ça va, t'as la forme?
Bah ouais, on a eu un superbe match, un super finish de la part du Paris Saint-Germain. On a commencé à avoir l'habitude depuis le début de cette saison, c'était top.
32-16 évidemment au standard pour participer à l'after, les supporters parisiens, les supporters lillois, vos messages également sur WhatsApp au 06 12 424 424. Je vous rappelle donc que le Paris Saint-Germain a décroché dans les derniers instants, dans les dernières secondes, le point du match nul à Lille, de partout, avec le but salvateur de Marquinhos à la 95e. Vitinha avait réduit l'écart à la 91e, alors que Bakua avait donné deux buts d'avance à Lille à la 84e. Et qu'en première période, Haraldsson avait marqué un très joli but. Bakua également, Vitinha aussi, de très jolis buts, un superbe scénario. On va en parler évidemment, et puis on vous donnera également tous les résultats de la soirée. Je vais vous les donner tout de suite, tiens, pour commencer avec en Angleterre, la victoire de Manchester City, 4-1 sur la pelouse de Crystal Palace avec un doublé de Ryan Cherki.
Incroyable, il fait un début de saison incroyable. Entre le match la semaine dernière qui fait basculer totalement la rencontre pour City et ce soir, on a du grand Cherki.
Le Bayern, lui, de son côté, a laminé Stuttgart 5-1. Deux futurs adversaires, d'ailleurs, du LOSC en Ligue des Champions. Et on sera avec Paulo Breitner en fin d'after pour évoquer cette victoire 5-1 avec un but d'Upamecano et un but de Michael Olise. Et puis en Italie, la victoire du Milan de Ruben Amorim, 2-0. Tiens, avec encore un but de Gonzalo Ramos, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.
Et si le Paris Saint-Germain a fait une erreur en le vendant?
Visiblement, ils arrivent quand même à égaliser en fin de match, même sans leur super sub. Allez, c'est parti pour les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les 3 points de Walid Acherchour dans l'after.
Mon premier point, c'est ce miracle parisien, le PSG qui a la haine de la défaite, même contre Rennes, et c'était le cas déjà, avec une équipe insipide, mais qui arrive à aller chercher ce point du match nul. Mon deuxième point, c'est le Lille de Davide Ancelotti, qui envoie quand même un super message sur la première mi-temps. Moi, j'ai vraiment aimé et apprécié ce football d'intensité, et il va falloir encore compter sur Lille cette saison, malgré cette égalisation tardive. Et mon troisième point, c'est les individualités. J'ai envie de parler d'Ethan Mbappé, qui moi m'a encore une fois agréablement surpris,
très, très bon.
Qui a fait une énorme première mi-temps. Il faut quand même ouvrir le dossier si ça commence à devenir sérieux. Et le retour de mon petit chouchou Dylan Bakua, qui a marqué un superbe but, et voilà, son transfert à Nottingham Forest. J'espère que c'est juste une erreur de parcours.
C'est vrai que ça fait longtemps que Walid en parle, en effet.
Ouais, et il a bon goût Walid, parce qu'on aime toujours beaucoup Dylan Bakua dans l'after. Les 3 points de Walid de Maxime Chano. Max,
bah écoute, moi je vais commencer par le LOSC, hein, qui malgré le nul confirme leur très bon début de saison. Moi je trouve que honnêtement les tauliers qui ont répondu présents, Giroud, Benjamin André, Ben Taleb, les jeunes qui prennent de l'épaisseur. Walid a parlé d'Ethan Mbappé, c'est le cas d'Haraldsson, c'est le cas de N'Goy, et puis surtout un entraîneur qui me convainc. J'avais des doutes quant à l'arrivée de Davide Ancelotti, là il est en train de me montrer, en tout cas me prouver, que ça peut être la très très bonne surprise de cette Ligue 1. Mon deuxième point, c'est le Paris Saint-Germain, qui vit quand même malgré tout un début de saison compliqué avec la défaite au Trophée des Champions et ce double match nul. Je trouve qu'il y a un manque d'efficacité offensif et défensif. Alors il ne faut pas s'inquiéter, c'est un début de saison, même s'ils ont montré une mentalité quand même irréprochable. Et mon troisième point, c'est le coaching et la gestion des hommes de Luis Enrique, qui encore une fois a fait ce changement à la mi-temps. Voilà, c'est la touche Luis Enrique. Aujourd'hui, il n'y a plus de statut, et finalement il nous prouve encore une fois aujourd'hui avec ce match nul qu'il a eu raison de faire ce changement. Et aujourd'hui, quand je vois la mentalité du Paris Saint-Germain, j'ai envie donner beaucoup de crédit à l'entraîneur espagnol.
32-16.
On aurait pu faire un 7ème point avec le temps additionnel de Vitinha, qui a été. Moi, j'étais mort de rire. Hein. C'est-à-dire qu'entre le but qu'il met à 2-1 et la passe décisive, pour Marquinhos, buzzer beater. Hein. C'est-à-dire qu'à la dernière seconde, joueur world class qui n'a pas fait un énorme match à l'image du Paris Saint-Germain, mais il a décidé de donner le match nul au PSG et il l'a fait. Et pour un numéro 6, numéro 8, c'est pas non plus. On attend plus un numéro 9, un numéro 10, un créateur. Et lui-même, avec ce rôle reculé, il est capable d'avoir un impact au tableau d'affichage. Donc, monstrueux, Vitinha.
Les réactions à venir également sur RMC dans l'after avec la conférence de presse de Luis Enrique, celle de David Ancelotti. Les réactions également en zone d'interview. D'ailleurs, Arthur Perrault, l'un de nos envoyés spéciaux, nous dit que ça a été chaud dans les couloirs des vestiaires, que les insultes ont fusé à l'issue du coup de sifflet final. Évidemment, le retour des vestiaires a été très compliqué avec notamment un Benjamin André qui était chaud et qui a pris donc visiblement un carton rouge.
Benjamin André, c'est honteux son comportement sur la fin de match. Déjà, Benjamin André, il devrait s'estimer heureux d'avoir terminé le match sans carton rouge parce qu'il doit prendre le deuxième jaune à deux reprises, notamment sur la deuxième. Et David Ancelotti a bien fait de le sortir parce qu'il était à la limite toute la deuxième mi-temps. Donc, qu'il fasse profil bas quand même, notre ami Benjamin.
Après, ça peut être compréhensible, t'as cette frustration. Tu tiens le match, tu gagnes 2-0. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il était quand même à deux doigts de sortir.
Non, mais il est pas content par rapport au temps additionnel qui s'est allongé. Ouais, c'est ça en fait.
Ça peut faire du
sens. Parce que le but est à la 94e minute. Après, faut pas oublier que parce que si on doit parler d'arbitrage deux minutes, mais que il y a peut-être faute de N'Goy sur Ferran Torres sur le premier but de Lille, ça peut siffler.
Moi, ça peut se comprendre.
Oui, je peux le siffler. Et lui, il doit prendre deuxième jaune. Donc voilà.
Par contre, il faut souligner.
On va essayer de vérifier quand même le carton rouge parce que pour l'instant, on n'a pas forcément la confirmation.
Il faut souligner par contre le choix de Davide Ancelotti de l'avoir fait sortir parce que c'est vrai qu'il était à deux doigts de.
Il aurait dû prendre pour moi jaune.
Alors, on va commencer peut-être par le Paris Saint-Germain, parce que on allait partir pour tout vous dire sur Lille qui nous a vraiment agréablement surpris, mais c'est vrai que cette fin de match change la perspective de cette rencontre parce qu'il y a cette égalisation à la 95e. Et tu l'as dit dans ton premier point, Walid, cette haine de la défaite. On a vu la réaction de Luis Enrique fêter cette égalisation comme si c'était une victoire en finale de la Ligue des Champions. Il a vraiment sauté au ciel avec ce point rageur. C'est quand même incroyable que Paris s'en sorte encore ce soir.
Oui, bah les images sont quand même poignante hein, de voir Luis Enrique et son staff être aussi virulent de manière positive dans ce match nul accroché à Lille. Cette haine de la défaite en Ligue 1 parce qu'ils avaient perdu aussi au trophée des champions, mais perdre en Ligue 1, ils ne veulent pas perdre en Ligue 1. Il y avait deux déplacements compliqués à Rennes et à Lille où ils sont fait totalement bouger hein, parce que il faut le dire, la pression du Paris Saint-Germain n'a pas été bonne ce soir, et notamment sans le ballon. Moi, je trouve qu'ils sont en grande difficulté comme face à Rennes sur les transitions. La première mi-temps a été très très difficile à regarder pour les Parisiens et à vivre parce qu'ils sont tombés sur une équipe de Lille électrique qui leur a fait beaucoup de mal, avec un Safonov décisif, avec un Giroud qui a mangé un peu la feuille, un Correa aussi qui a mangé un peu la feuille sur la première demi-heure. Mais malgré ça, le PSG a ce supplément d'âme, et puis aussi cette qualité et ce leadership et ces joueurs spéciaux comme Vitinha et Marquinhos sur cette égalisation pour ne pas perdre. Et ça, c'est quand même important, parce que ce soir, tu te dis, ok, d'accord, malgré tout ça, malgré le fait d'être en difficulté, ce que tu vas retenir quand même, c'est que cette équipe-là a ce mental-là. Maintenant, on pourra ouvrir le dossier sur l'aspect physique.
Ah, il y a plein de choses à dire.
Bah oui, bien évidemment, sur Beraldo, sur l'intégration des nouvelles recrues, sur Lucadine qui fait une entrée qui est catastrophique. Zahir Emri arrière gauche. Doué qui sort, alors pour moi, il doit pas sortir. Il y aura pas mal de choses à dire là-dessus, mais la première information, c'est quoi? Ce PSG-là aurait dû perdre. Mais ne perds pas.
Ouais, je pense qu'il ne faut pas être trop inquiet par rapport à ce Paris Saint-Germain version 2026, pour la simple et bonne raison que déjà que la préparation a été tronquée avec le retour des mondialistes quand même qui est arrivé assez tard. On l'a vu d'ailleurs sur les deux premiers matchs, notamment le trophée des champions, où physiquement j'avais le sentiment que Lens était bien au-dessus. Donc en fait là, on risque de voir un Paris Saint-Germain en mode diesel. Ça va prendre du temps. On a des joueurs comme Dembélé par exemple qui ont décidé de couper un petit peu justement pour récupérer des deux grosses dernières saisons qu'ils ont eues. Donc par rapport à ça, moi je suis pas très inquiet. Après, c'est vrai que tu peux te poser des questions sur les zones qui sont très importantes sur le terrain, c'est-à-dire la zone offensive et la zone défensive. Et j'avais trouvé déjà contre Aston Villa quand même, parce que tu sais que j'aime bien toujours m'attarder un petit peu sur l'aspect défensif d'une équipe. Alors, j'avais dit un peu plus tôt, Jérôme, qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain avait besoin justement de faire évoluer un petit peu son axe central, de trouver un backup à Marquinhos. Et là, encore une fois, aujourd'hui, avec un Olivier Giroud qui a fait un top match, malgré ses 40 ans, je pense qu'il les aura la semaine prochaine, Je me pose la question quand même sur la capacité à ces joueurs de pouvoir tenir toute une saison. Est-ce que finalement ils sont pas en fin de cycle? Alors attention, hein, je suis en train de tempérer mon analyse. Je dis pas qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain est
cramé. T'es pas inquiet, on comprend plus, Maxime.
Non, j'ai envie de leur laisser du temps. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, Walid, sur les trois derniers matchs que j'ai vus, sur le match contre Aston Villa où j'ai vu le Brian Maggio manger Pacho, manger Marquinhos, je commence à me poser des questions sur le fait, est-ce que le Paris Saint-Germain ne devrait pas, là, sur les 10 derniers jours de mercato, enfin, jusqu'à mardi, pour le coup, il reste plus que 5 jours, le temps passe vite.
Ils ont dit qu'ils allaient bouger, hein.
Est-ce qu'ils devraient pas bouger, justement, sur cette
position-là? De toute façon, ils vont chercher un défenseur central, latéral droit.
C'était exactement la question. J'ai entendu parler de Guéladoué, je pense que ça pourrait être une bonne option. Voilà. Ça, c'est juste l'aparté sur le point de vue défensif, Walid. Après, je l'ai dit un peu plus tôt, je défends le bilan du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, dans la mesure où ils sont dans une situation où ils n'ont pas eu de préparation. Il faut pas être inquiet parce que, encore une fois, c'est un PSG en mode diesel. On va sûrement les voir accélérer au fil de la saison. T'as des joueurs qui vont revenir en forme, en particulier Dembélé, par exemple, on le sait chaque année, qui revient en forme à partir de janvier-février. Donc aujourd'hui, voilà, tirer la sonnette d'alarme, non, j'ai pas envie de le faire. Mais c'est vrai qu'on voit quand même des choses qui peuvent être questionnables. Notamment ces problèmes récurrents qu'il y a derrière dans l'axe de la défense. On peut aussi parler de la finition offensive, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même vu des loupés qu'on n'a pas l'habitude de voir en pleine saison. Mais voilà, je pense qu'il faut tempérer, il faut rester tranquille. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est dans un mode de gestion.
C'est toujours dur d'analyser le PSG, parce que tu te dis, est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils ne veulent pas, est-ce qu'ils ne peuvent pas, est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème physique, mais c'est aussi le raccourci facile de dire que c'est uniquement physique, parce qu'on a quand même des joueurs qui tournent énormément sur les deux premiers matchs, avec des joueurs qui n'ont pas démarré, comme Kvaratskhelia ce soir, ou qui sont sortis à la mi-temps, comme la semaine dernière. Donc on peut pas dire qu'un Kvaratskhelia qui a pas fait la Coupe du Monde est cramé, par exemple. La même chose pour les nouvelles recrues qui viennent d'arriver. Ferran Torres n'a pas eu une Coupe du Monde énergivore, il a eu un statut de remplaçant. Akliouch a très peu joué à part les 10 minutes contre l'Irak. Donc voilà, sur l'aspect physique, un Vitinha
physique, peut-être l'aspect mental.
La créativité, le fait de gagner deux Ligues des Champions. Donc c'est pour ça que moi j'irai jamais critiquer le Paris Saint-Germain. Maintenant on a le droit quand même d'analyser les matchs qu'ils font, et pour le coup, même Luis Enrique l'a dit en conférence de presse la semaine dernière, il a été très très exigeant avec eux. Donc si moi je vais m'aligner sur Luis Enrique, hein, et Luis Enrique l'a dit la semaine dernière, il a pas du tout aimé le match contre Rennes. On verra ce qu'il va dire ce soir, mais je pense que sans le ballon, cette équipe là je trouve est en grande difficulté, et notamment au milieu de terrain. Moi je trouve que dans sa capacité à savoir presser comme ils le font, quand ils le font très très bien, je trouve que c'est moins performant. On dit souvent que les attaquants sont les premiers défenseurs, mais derrière, quand on voit la première mi-temps comme face à Rennes, à chaque fois que cette équipe de Lille arrive à sortir de ce faux pressing du Paris Saint-Germain, et ben il y a tout de suite la difficulté de pouvoir les cadrer, et ils sont souvent en danger. Et ce soir, heureusement que Lille n'est pas aussi efficace que ça, parce que moi je trouve que le PSG s'en sort bien.
Il y a une grosse problématique de la gestion de la profondeur aussi, hein, sur les quatre de derrière, notamment parce que Hakimi joue très haut, et ça a été le cas de Zaire Emery aussi. C'était assez bizarre d'ailleurs.
Après un mi-temps, Thiago Santos et un Mbappé sur Zaire Emery, il y a des vagues. Hein.
C'était Beraldo.
On reparlera du côté droit du LOSC.
C'était Beraldo qui venait couvrir Zaire Emery, donc c'est pas vraiment logique. Normalement, ça aurait été plus Pacho. Ça, c'est une première chose. Là, moi je suis un peu plus inquiet, c'est justement dans la gestion du ballon. Et c'est vrai que là, les Lillois qui ont été, ils avaient fait la même chose. D'ailleurs, je parlais de David Ancelotti, on y reviendra un peu plus tard par rapport à la tactique défensive du coach lillois. Moi, je les ai trouvés intéressants. Ils ont été agressés, les Parisiens. Ils ont été les pressés haut. Résultat, les Parisiens ont dû dégager. Et on sait que Ferran Torres, c'est pas un joueur qui est en mesure de pouvoir garder le ballon. Et le premier but vient de là. Alors certains te diront qu'il y a faute ou pas faute. En tout cas, il perd ce duel. Et derrière, c'est le but d'Aralson. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui à prendre aussi peut-être en considération. C'est qu'aujourd'hui, je trouve que dans la gestion du ballon, dans la possession de balle, le Paris Saint-Germain est un petit peu moins performant que ce qu'on a vu sur les deux dernières saisons.
Dans un instant, on donne la parole aux supporters parisiens. Laurent nous a appelé au 32-16. Vous nous appelez également les supporters lillois pour réagir notamment à ce que vient de dire Olivier Létang, entendu par Arthur Perrault en sortant des vestiaires, disant c'est un scandale. Je pense qu'il fait référence au temps additionnel qui a été donné et qui a été rallongé. Dans un instant, l'after revient. Walid Acharchour, Maxime Chano et vous au 32-16. On est là jusqu'à minuit. À tout de suite. Le Paris Saint-Germain a fait match nul de partout à Lille.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Jérôme Sillon.
Avec Olivier Acharchour, avec Maxime Chano, avec vous au 32-16 et sur le WhatsApp de l'After, on est là jusqu'à minuit. Lille a été tenue en échec, 2-2 par le Paris Saint-Germain. Lille menait à 2-0 à la fin du temps réglementaire, et puis dans le temps additionnel, le PSG a réussi à marquer par deux fois Vitinha et Marquinhos. On va parler du LOSC et de sa belle performance dans quelques instants, mais d'abord Laurent est avec nous, supporter parisien. Salut Laurent.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe.
Laurent, tu veux nous parler de la composition d'équipe de Luis Enrique?
Ouais, je ne comprends pas la composition de cette équipe. Je ne la comprends pas. On a recruté Lucas Digne pour justement pallier à l'absence de Nuno Mendes. Il nous met Warren Zaïre-Emery qui nous a prouvé qu'il pouvait jouer latéral droit, mais ce n'est pas son poste. Ce passé de Kvaratskhelia, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'a pas fait de mondial, donc sa préparation. La préparation est complète. Est-ce que Luis Enrique n'a pas prêché par arrogance? Et pourtant Luis Enrique, que j'aime autant que mon fils, hein. Je remets pas tout en question.
Autant que ton fils.
Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il a pas prêché par arrogance en disant je peux battre Lille, qui est quand même une équipe niveau Ligue des Champions, on le rappelle, avec cette composition là.
Ouais, t'as raison là-dessus parce qu'il y a trois choix. Donc après, on sait très bien que Lucien Riquet, il envoie des messages. Il envoie des messages forts. Moi, je pense que Lucas Digne, son match contre Lens, il l'a pas du tout aimé et il envoie le message que, écoute, mon copain, si t'es pas à ton meilleur niveau, je vais même mettre des joueurs qui ne sont pas défenseurs. Sauf qu'en fait, Lucien Riquet, il pousse souvent ça à l'extrême. Quitte à même, en fait, en envoyant des messages de management, comme il sait que Lille n'est pas le match le plus important de la saison, il va même saborder son équipe, en tout cas pas saborder, mais handicaper son équipe pour envoyer des messages forts. Le gros problème, c'est que quand tu vois l'entrée de Lucas Digne, tu peux pas dire que Lucas Digne ait répondu à l'attente de Luis Enrique ou à son exigence. Parce que
tu parles de son duel avec Bakua.
Son duel avec Bakua, il a pas le droit de laisser Bakua avec autant de mètres, surtout sur son pied, surtout sur son pied fort. Donc moi, je suis d'accord avec toi, surtout qu'en plus ça implique le fait d'avoir Beraldo au poste de milieu de terrain, et on en parlera, mais Beraldo a fait une superbe fin de saison, mais dans ce rôle-là, mais dans des matchs où il était en fauteuil, dès qu'il y a du rythme, voilà, il est en grande difficulté. Et la même chose sur Kvaratskhelia, il y a deux choses. Kvaratskhelia qui ne démarre pas après Rennes, donc sanction, punition, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un choix fort de la part de Luis Enrique. Et surtout, je comprends pas pourquoi Doué sort à la mi-temps, alors pour moi Doué est le plus dangereux du côté du PSG.
Ouais, parce que s'il faisait sortir à Cliouche par exemple, à mon avis il l'aurait tué. Ouais. Mais je suis d'accord.
Après
avec
il est capable
quoi,
aussi, en fait, vu l'entrée de Kvaratskhelia, de garder un trio d'attaque pendant une heure de jeu.
Oui,
parce qu'en fait l'histoire.
Non,
mais bon, moi j'aime beaucoup Luis Enrique, il y a pas de souci. Mais l'histoire de, on va envoyer des piqûres d'électricité à toutes les mi-temps parce que il est pas content de l'attaque. Il va falloir qu'à un moment ça s'arrête cette histoire.
Alors c'est vrai que c'est juste
pour tout le monde.
Tu peux poser la question jusqu'à quand Luis Enrique va tirer sur l'élastique. Pour l'instant, ça fonctionne parce qu'il a une crédibilité qu'il a été cherché en gagnant notamment
ces deux
champions. Après, je pense qu'aujourd'hui, il a cerné, il a compris que il a besoin de joueurs qui ont encore faim. C'est la raison pour laquelle il laisse partir, par exemple, Barcola, qu'il a fait le choix de laisser partir aussi Gonzalo Ramos. Aujourd'hui, Luis Enrique a besoin d'un groupe qui est concerné. Et en fait, le message, il l'a envoyé la semaine dernière contre Rennes. Il fait sortir Dembélé, il fait sortir Kvara. Aujourd'hui, il a envie de laisser tout le monde concerné. On a compris que les statuts, il fallait les laisser au vestiaire. Il était obligé de faire la même chose. Il était obligé. Alors, pourquoi il a fait sortir Désiré Doué et pas Cliouche? Ça, la question, il faudra lui poser.
Non, mais en fait, c'est encore un message de dire.
Mais je pense qu'il est dans une dynamique où il a envie de montrer, en effet, sur ce début de saison, que personne n'est installé, personne n'est dans un fauteuil.
Mais il méritait pas de sortir Doué.
Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, l'institution, l'équipe est au-dessus des individualités. C'est vrai que tu peux te poser la question, notamment sur le fait d'avoir aligné Zaïre-Emery arrière gauche, Beraldo qui a été pas mal sur les petits matchs entre guillemets de Ligue 1, où est-ce qu'il y avait très peu de pression, où est-ce que, comme tu l'as dit, il arrive à être face au jeu. Quand il tombe contre une équipe qui vient le chercher, bah Beraldo, il montre que c'est pas un milieu défensif, c'est plus un défenseur central. Donc attention, je pense qu'il faut pas non plus tout remettre en cause, tout remettre en question, mais c'est vrai que Luis Enrique a parfois tendance à se perdre un petit peu, peut-être par excès de confiance, mais cette confiance, il l'a gagnée lui-même.
Laurent, un dernier mot.
Juste que je trouve ça gênant de devoir célébrer en tant que double champion d'Europe un point contre Rennes. C'est surtout ça aussi.
Oui, mais ça monte la haine de la défaite aussi.
Oui, attention, on n'a pas perdu et c'est ce qu'il faut retenir de la soirée. Mais c'est dommage qu'il faut retenir surtout ça de la soirée. C'est que le PSG, de toute façon, va aspirer à mieux à un moment donné. Je ne tire pas la sonnette d'alarme, et je ne remets pas tout en question. Mais j'espère que. Enfin, c'est mon avis que cette arrogance ne va pas nous coûter cher plus tard.
Non, mais les quatre matchs là qu'on a vu, Aston Villa, Lens, Rennes et Lille, sont là pour cimenter le reste de la saison. On l'a bien compris dans son management, dans les messages qu'il voulait faire passer en dehors du terrain, parfois même à l'excès, ou même dans ses choix de composition d'équipe ou de lecture de match. Maintenant, moi, je trouve pas que sur les quatre matchs,
Une seule victoire.
Oui, qui est une amélioration dans la détermination de son effectif. Parce que ce soir, on va retenir à juste titre le temps additionnel qui est dû à encore une fois deux gestes hors du commun de Vitinha. Mais ce que je veux dire, c'est que avec le ballon, c'est une équipe qui ronronne énormément et qui, bon, avec l'intégration aussi de certains joueurs,
qui n'avait tiré qu'une seule fois cadré au but à la 76e minute ce soir.
Pour moi, c'est pas assez méchant, c'est pas assez compétitif. Alors oui, ça tourne bien la balle, Fabien Ruiz, voilà, on sait très bien qu'ils ont la qualité technique pour le faire, mais par contre, je trouve que ça se termine jamais par une frappe ou très rarement par une prise de décision. On se regarde, on fait l'extra passe, on donne la passe au copain. Et ça, je trouve que la détermination que veut inculquer Luis Enrique sur ce début de saison, parce que là nous on écoute ce que dit Luis Enrique. Et ben j'ai pas, moi par exemple, Kvaratskhelia, son entrée, à ce qu'il a fait la semaine dernière en sortant à la mi-temps, j'ai pas l'impression que c'est servi. C'est un symbole, mais je trouve que entre les quatre matchs, c'est insipide, ça reste que pour l'instant insipide. Alors après, ça n'augure en rien sur la suite de la saison. Mais
allez, on va écouter tout de suite Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, en conférence de presse après le match nul de partout du PSG à Lille.
Qui m'a fait la question? Vous savez les points qu'on a fait l'année dernière contre Rennes et contre Lille? Vous le savez?
Tu fais appel à la saison dernière.
Tu penses que plus ou moins?
Un point sur six.
Qu'est-ce que tu en penses?
Un partout à Lille l'année dernière.
Et trois.
Combien de points on a fait l'année dernière? Un seul. C'est très positif. C'est seulement question de parler et de chercher à trouver les positifs. Aujourd'hui, c'est clair que nous pensons toujours à gagner, mais on joue à la maison d'une équipe qui joue très bien, avec un très bon staff. Une équipe qui est habituée à surmonter n'importe quel que soit le joueur qui est parti. Et on a fait, je pense, un très bon premier mi-temps. On a fait, je pense, 3-4 chances pour marquer le but. On a marqué aucun. Et Lille a profité très bonne action, ils ont eu des actions pour marquer et ça a été le résultat. Le deuxième mi-temps a été clairement pour nous et ils ont marqué le deuxième but. À ce moment, j'ai pensé que c'est très injuste le résultat, mais c'est le football ne sait pas de juste ou injuste, le football c'est les buts que tu fais. Mais à la fin, on a continué comme d'habitude à chercher jusqu'à la dernière minute et on a fait le début. Comme tout le monde, on pensait que ça a été catastrophique. Mais ça montre la difficulté de jouer à l'extérieur, ça montre la difficulté de jouer dans ces stades, ça montre la difficulté de jouer un match de Champions League. Et je pense que ça fait du bien parce qu'on a besoin de récupérer le plus vite possible notre niveau. C'est clair que c'est impossible d'avoir notre niveau à ce moment de la saison, mais content de ce que j'ai vu.
Ouais, il a fait une longue réponse, Luis Enrique.
Je trouve bon dans la com.
On peut s'arrêter sur cette première réponse ou continue?
On fait une deuxième réponse et puis après on débriefe.
C'est vrai que la logique aurait été l'inverse.
Il parle de Beraldo, il parle de Zaïre Emery.
Il n'y a pas de logique dans le football. Pour nous, Beraldo, c'est un millier, un très bon millier. C'est une surprise parce qu'on avait signé Beraldo comme latéral ou comme central. Mais on a fait la... Descubrimiento? On a vu la surprise de trouver une nouvelle position pour Beraldo et on est très contents. On a découvert Beraldo comme milieu. J'aime la manière qu'il a de jouer dans ses positions. Et Warren joue partout, il peut jouer partout, il joue à très bon niveau, n'importe quel que soit les côtés. Il a montré l'année dernière qu'à les côtés droit, il est sensationnel. À les côtés gauche, pour moi, il a joué très bien. Peut-être on peut obtenir un peu plus de mobilité avec lui parce qu'il est un millier qui peut jouer face à les buts adversaires. On a eu des difficultés pour presser parfois parce que Lille a beaucoup de qualité avec les milliers Haraldsson, Bentaleff et André, et ils sont Et beaucoup de joueurs de qualité, ils sont en très belle équipe.
Voilà, Luis Enrique. Donc, on va écouter tout de suite le buteur, le héros parisien Marquinhos.
Je pense que des années que je suis ici, c'est la première fois que je vois autant de matchs difficiles en début de saison. Et c'est à nous de savoir gérer ça et chercher le plus de points possible parce que c'est des points importants pour la suite. Et après, là-bas devant, c'est des points qui comptent beaucoup.
Marquinhos qui a marqué le but égalisateur à la 95e minute de partout entre Lille et le PSG ce soir. C'est l'after c'est jusqu'à ça, minuit sur RMC.
Bonjour, c'est pas évident à négocier.
Non, c'est positif. Dès qu'il y a le coaching, il est positif. C'est positif pour nous aussi. Et les joueurs, ils sont conscients que c'est pas tous les jours qu'on va être à notre 100%, qu'on va être homme de match. Et nous, on compte beaucoup sur le collectif. Et tout le monde, aujourd'hui, il y a eu des rentrants à la mi-temps, il y a eu des rentrants à la fin de match. Et voilà, on a beaucoup de matchs dans la saison. Le coach, il sait comment gérer, comment savoir. Il y en a des joueurs qui sont pas 100%. Lui, il essaie de changer, il mettrait d'autres qui vont amener quelque chose. Et on s'appuie sur le collectif et je pense que c'est ça notre force. Ça a été ça notre force les dernières années et ça va continuer à être encore cette année.
Voilà Marquinhos, le capitaine parisien en zone mixte. Beaucoup de choses à dire. Ouais. Il parle quand même, ce qui est intéressant, il fait référence aussi à la difficulté du calendrier du Paris Saint-Germain. Les deux premiers matchs, c'est vrai, tu vas à Rennes, tu vas à Lille. C'est pas comme les premières saisons où tu reçois Angers ou tu reçois Lorient sans faire.
Tu peux rajouter Lens aussi.
Et Lens, bien sûr.
Tu sais que moi, sur l'explication de Luis Enrique qui a été très très longue et très intéressante, je suis pas du tout d'accord avec la première partie, mais la deuxième partie quand
c'est
il
quoi, la première partie
la première partie quand il dit que en gros par rapport à Rennes et Lille la saison dernière on fait plus de points.
Ah ouais, d'accord,
en gros il manie un peu là, il protège un peu son groupe. Ah ouais. En fait c'est le faut lire le Luis Enrique à ce moment-là, c'est que Luis Enrique quand c'est très très bien souvent il te dit que c'était moyen. Quand c'est pas bien, il va te dire non, mais il va trouver si quelque chose de positif. Il va toujours prendre le contre-pied pour défendre soit son groupe soit essayer d'être exigeant envers son groupe.
Sans... Comme il est très bon.
Voilà. Il est dans son rôle et c'est ok. Moi, je suis ok avec ça. Par contre, je suis pas d'accord avec lui quand il dit Warren Zaïre, Emery à gauche, c'était très bien, c'était positif. Beraldo, la même chose. Mais parce qu'il est dans son rôle, il y a pas de souci. Mais par exemple contre Rennes, moi j'ai préféré la première mi-temps contre Rennes que la première mi-temps de ce soir. Alors que la semaine dernière, on avait fait le débrief, il avait dit. Il n'a pas aimé du tout la première mi-temps contre Rennes. Et là, ce soir, il dit la première mi-temps, elle est très bonne, on n'a pas été efficace. Mmh. Donc voilà, c'est Luis Enrique. Il faut, j'espère qu'il ne pense pas ce qu'il dit, mais il est dans son rôle et non, moi, c'est okay, je suis OK avec ça. Par contre, la deuxième chose, et pour terminer, c'est que la difficulté qu'il y a en Ligue 1 depuis un an et demi dans ces gros rendez-vous-là, même quand il change son système de jeu, quand il change les hommes, je trouve que c'est intéressant et on n'en parle pas assez parce que. Avant, on disait souvent, la Ligue 1 est trop facile pour le Paris Saint-Germain. Ils sont pas challengés pour la Ligue des Champions. Et moi, là, je trouve qu'au contraire, je sais pas si c'est une vraie tendance, faudrait regarder, mais dans beaucoup de matchs à l'extérieur, le PSG est bousculé. Tu prends Kvaratskhelia, par exemple, il est plus à l'aise quand il y a un peu plus d'espace en Ligue des Champions que face à ce type d'équipe ou avec des blocs un peu plus regroupés. Et je trouve que c'est quand même intéressant de voir ce PSG challenger et ça leur permet de progresser.
Malgré le statut de double champion d'Europe, mais c'est vrai qu'ils sont secoués.
Et là, ils en parlent.
Justement parce qu'il y a ce statut de double champion d'Europe que, alors, ils ont toujours été attendus, mais ils sont encore plus attendus parce qu'aujourd'hui, voilà, la proie et la cible, c'est le Paris Saint-Germain. J'aime beaucoup la com de Luis Enrique. Et si tu prends un petit peu de recul par rapport au début de saison et notamment les trois derniers matchs, que ce soit le Trophée des Champions à l'extérieur contre le Racing Club de Lens, à l'extérieur sur la première journée contre le Stade Rennais, puis à l'extérieur aujourd'hui contre le Lost, et sur trois équipes qui sont quasiment les trois meilleures équipes de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un calendrier qui est très, très compliqué. Et c'est vrai que je te dis pas que c'est des très bons résultats, mais lorsque tu regardes finalement, tu ne perds pas de points contre des adversaires directs dans une ligue où aujourd'hui le Paris Saint-Germain n'est pas prêt, il faut être honnête, par rapport à Lens, à Lille et à Rennes. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a une préparation complètement tronquée avec, on l'a dit un peu plus tôt, Walid, des joueurs qui ne sont pas arrivés à leur top physiquement. Donc j'aime beaucoup la stabilité, le calme qu'apporte Luis Enrique.
Tu dois même pas gagner si je suis
convaincu qu'au fond, lorsque les portes des vestiaires sont fermées, à mon avis, je pense que Luis Enrique doit pas être content.
Et puis il veut changer de communication aussi, Jérôme, parce que la semaine dernière il a été très excessif. Mais moi j'ai aimé. Il y a été fort. Et là il voit aussi que ça a pas forcément fonctionné. Et là il repart dans quelque chose de plutôt positif. Après, je pense qu'il doit aussi jauger dans sa communication.
Ouais, après, la différence, Walid, par rapport à la semaine dernière, là, on peut quand même critiquer les choix sur les choix d'hommes de Luis Enrique. Ça a été moins le cas la semaine dernière. Là, c'est vrai que lorsque tu mets Zaire Emery à gauche, Beraldo en numéro 6, tu te poses la question s'il n'y avait pas d'autres choix à faire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui,
il a. En gros, comme c'est sa responsabilité, il doit se mettre dedans, tu veux dire.
En tout cas, je pense qu'il tempère sa réaction parce qu'il sait que les joueurs, les protagonistes ne sont pas les seuls fautifs aujourd'hui si le Paris Saint-Germain encaisse deux buts et ils reviennent avec ce score de 2 partout contre le LOSC.
Dans un instant, on donne la parole aux supporters parisiens, aux supporters lillois. Et je vais vous donner l'explication de la sortie à la mi-temps de Désiré Doué également, puisqu'il en a parlé en conférence de presse de Luis Enrique. Restez bien connectés, l'after continue jusqu'à minuit avec Walid Acherchour, avec Maxime Chano et avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
Avec Walid Acherchour, avec Maxime Chano, avec vous au 32-16. De partout entre Lille et le Paris Saint-Germain. Lille menait 2-0 à la 84e minute avec un superbe deuxième but de Dylan Bakwa. Le premier était très beau également d'Haraldsson et dans le temps additionnel. Magnifique but du gauche de Vitinha Plaine-Lucarne et l'égalisation de la tête de Marquinhos. Avant de prendre Léo au 32-16, Luis Enrique a expliqué pourquoi Désiré Doué a été remplacé à la mi-temps. Eh bien, c'est tout simplement pour un petit problème musculaire. Rien à voir, dit-il, avec une décision technique ou tactique. Mais bon, c'est vrai qu'avec Luis Enrique, on a droit aussi de douter.
Ah bah c'est plus logique. En tout cas, c'est plus logique par rapport à la première mi-temps de Doué qui ramenait un peu d'électricité dans ce jeu moribond du PSG. C'est beaucoup plus probable. En tout cas,
t'aurais sorti qui sinon
Moi, j'ai sorti quelqu'un.
Non, mais moi, j'ai même pas trouvé ça scandaleux, personnellement.
Ah, bon,
ah ouais, que Désiré Doué sorte, je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. J'ai trouvé.
C'était le meilleur, enfin, c'était le moins mauvais. C'était celui qui a porté le ballon dans les bonnes zones.
Après, pour moi, c'était Ferran qui était le plus intéressant devant.
Ferran dans un rôle de.
Dans un rôle d'attaquant mais axial.
Dans la création du jeu, dans le danger.
À partir du moment que tu vas envoyer Guevara sur la seconde mi-temps, il faut sortir un. Soit tu sors Désiré Doué, soit tu sors Akliou. Si tu sors Akliou,
c'est vrai qu'Akliou, ça n'a pas été exceptionnel non plus. Il faudrait qu'on en reparle d'ailleurs.
Je pense que tu le tues, donc voilà, ça va donner un petit peu plus de confiance.
Il l'avait fait contre Aston Villa.
Ouais, Léo est avec nous.
Deux fois d'affilée, ça va être compliqué.
Supporter du PSG, salut Léo.
Salut les gars, bonsoir.
Ça va Léo ? T'as 15 ans, hein ?
Ouais, c'est ça, 15 ans. Exactement. Bon.
Léo, qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a moins plu ?
Eh ben, pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai appelé au standard à 2-0. Il y a eu le but du 2-0. J'étais vénère devant mon écran. Franchement, j'avais envie de tout casser. Donc j'appelle, etc. Et puis en regardant l'écran, en attendant d'être pris, 2-1, 2-2, et puis très content. Et ce que j'ai envie de soulever, c'est déjà la semaine dernière, j'ai essayé d'appeler moi après le 2 partout. Je suis pas passé, mais du coup là, la même chose, encore un 2 partout. Et je suis très content, entre guillemets, de cette mentalité, comme ça a été souligné, parce que moi... quand j'ai grandi avec le PSG, je suis supporter depuis vraiment que je suis tout petit. Et je suis de cette génération qui a connu que les défaites du PSG. United, moi, c'est celle qui m'a le plus traumatisé au parc.
Enfin, dis-moi, Léo, t'as 15 piges, t'as quand même vécu des bons moments à ton âge.
Sur les dernières années, c'était pas mal, non ?
C'est justement pour ça que je dis ça. Moi, cette mentalité de on veut pas perdre. Les gars, on prend un but à la 84e, ça fait 2-0. On propose rien du match. Et ben, on essaye. Il reste 5 minutes en additionnel. On essaye. Et je suis très content pour ça. Mais dans le même temps.
C'est pour ça que c'est bien de voir le verre à moitié plein. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein de choses qui n'ont pas été ce soir, notamment les choix d'hommes ou certains joueurs qui n'ont pas fait forcément une top performance. Ouais, mais derrière, c'est vrai que sur la mentalité affichée, honnêtement, tu peux tirer le chapeau un petit peu aux joueurs, à Luis Enrique, à la mentalité qui a été affichée par le Paris Saint-Germain.
Léo, si on fait une petite évaluation, parce qu'on va la commencer dans un instant, ton top, ton flop, ton taulier, ton Casper.
Top Vitinha, je pense que c'est celui qui a fait globalement le moins mauvais match pendant 90 minutes et après le temps additionnel, bon bah exceptionnel. Le flop, franchement, il y en a quand même pas mal, j'ai envie de dire Digne, qui est vraiment pas bon. La manière dont il défend sur Bakwa, ça me fait penser un peu à une action l'année dernière en première ligue qu'il avait eu là. Il s'était
fait avec Ryan de Bournemouth.
Ouais, exactement, de Bournemouth. Ryan Tain, il avait même pas bougé, ça me fait penser un peu à ça, il est juste sa jambe là. On dirait un défenseur de R2, enfin bref.
Il nous a fait une Nuno Mendes, mais quand il a pas envie de défendre, quoi, Lucas Digne.
Exactement.
Après, merci Léo.
Après voilà. Bon, merci. Allez, bonne soirée, les gars.
Bonne soirée, à bientôt dans l'after, Léo. Merci d'avoir appelé. Pour terminer sur le PSG, sachez que le match Rennes-PSG aura. Vous savez que le match avait été inversé. Et bien la commission de compétition de la Ligue a aujourd'hui annoncé que le match retour aurait lieu au Parc des Princes et non pas au Roazhon Park.
Ça c'est une dinguerie. Ouais, je trouve ça honteux.
C'est une dinguerie.
Je trouve ça honteux.
Ah ouais, par rapport à l'équité, vous trouvez ça honteux?
Ah oui, c'est honteux.
Bien sûr que c'est honteux. Dans la mesure où, encore une fois, Rennes avait décidé d'être une solution de repli, pas forcément d'échange. Et alors, le pire dans tout ça, c'est que la Ligue avait décidé de jouer ce match aller à Rennes sans statuer le match retour. Pour moi, ça me paraît complètement illogique. Quand tu regardes un petit peu la difficulté d'organisation sur un match comme le PSG fin août, alors que les Rennais sont en vacances, alors qu'ils ont eu à peine 3 ou 4 jours pour pouvoir organiser tout ce qui est sécurité, marketing autour de ce qui est censé être le match le plus important quasiment de la saison pour Rennes.
Ah oui.
Honnêtement, business, je trouve que les Rennais sont complètement lésés et je trouve qu'honnêtement, attention, parce que c'est vraie jurisprudence, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as des clubs qui ne sont pas en mesure ou qui ne veulent pas aller jouer Strasbourg l'hiver ou ne veulent pas aller jouer à Lille cet hiver, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, écoutez, notre terrain, il est impraticable, on échange. Enfin, je trouve ça un peu bizarre, honnêtement, que la Ligue est statuée.
Oui, mais si Rennes avait eu un match supplémentaire à domicile et qu'ils finissent avec un point d'avance sur les autres équipes européennes, par exemple, pour faire sur Ligue des Champions,
c'est pas le problème de Rennes. C'est pas le problème de Rennes, ça. C'est le Paris Saint-Germain qui a fait de la merde. Enfin, c'est Paris Saint-Germain qui est responsable quand même de son propre stade où pour accueillir un match de Ligue 1. Et puis en plus, la sanction financière pour le PSG,
150 000 euros,
c'est extraordinaire. Rennes en fait a besoin d'être
pour moi il aurait fallu donner le manque à gagner chiffré à un demi-million d'euros
en fait, c'est à Rennes.
Par les Rennais il aurait fallu donner cette somme aux Rennais pour les dédommager.
Rennes récupère de l'oseille, soit je sais pas, en fait il y a un truc où c'est pas au PSG d'être sanctionné financièrement alors que là on parle de sportifs, on parle de sportifs et sur un manquement de la part d'un club pour recevoir un club de Ligue 1. Et après je vais même te dire, pour moi Rennes se fait avoir dans cette histoire, pour pas dire autre chose, parce que je vais rester vulgaire, mais Rennes n'aurait jamais dû jouer ce match.
Ils auraient pu
avec le recul, Rennes aurait, tant qu'il n'y a pas, et on en avait parlé déjà vendredi dernier avec Daniel à Marseille, tant que tu ne sais pas
où se jouera le match retour,
ouais. tu ne reçois pas le Paris Saint-Germain.
Parce que Rennes va se retrouver au mois de mars avec 5 matchs à l'extérieur sur une série de 6, ça va faire quand même beaucoup. Davide Ancelotti, l'entraîneur du LOSC, en conférence de presse après le match nul de partout de Lille face au PSG.
Qui Paris fait, alors on a cherché de poser des problèmes. Et oui, bien évidemment, si ils ont au marquage, on avait prévu le marquage sur Thiago Santos, qui pouvait être difficile à gérer pour eux, et sur Romain Perrault, parce qu'ils envoient les deux axes centrés sur les centraux. Alors on savait que dans un deuxième temps, on pouvait avoir de l'espace avec les latéraux. Et avec Ballon, on a bien joué, surtout je pense la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, on a pas beaucoup eu le ballon, mais dans la première mi-temps, on a posé pas mal de problèmes, oui.
Davide Ancelotti, l'entraîneur du LOSC. Effectivement, Lille a posé pas mal de problèmes. On va rester à l'écoute, hein, évidemment, avec Flavien en régie pour voir ce qu'il se dit. Mais il faut quand même mettre en valeur la première période assez remarquable quand même du LOSC.
Il faut en parler. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très performant. Quand Lille, bon, là, on va parler de Davide Ancelotti, mais globalement, même sur les dernières années, quand ils sont comme ça à Pierre-Mauroy en Ligue 1, dans ce type de match, c'est quand même très compliqué d'aller les chercher. Quand ils se mettent dans ce mood-là, avec beaucoup d'électricité, avec ce mélange des vieux briscards qui sont encore, qui pètent encore le feu, la jeunesse, la fougue, l'intensité. Il y a quand même un football moderne proposé à Pierre-Mauroy dans ce type de soirée, qui sont quand même très très durs à gérer pour n'importe quelle équipe de Ligue 1. Et c'est ce qu'on a eu sur la première mi-temps. Quant à cet Haraldsson-là, quant à Giroud en pivot, ce qu'il fait sur le but exceptionnel, le duo André Bentaleb et Talem Mbappé, on en parlera après, qui était un peu la cerise sur le gâteau de cette première mi-temps, un peu comme sa rentrée qu'il avait fait l'année dernière où il avait donné le but de l'égalisation contre le Paris Saint-Germain. Et quand tu compares ces deux matchs-là, on avait beaucoup critiqué les intentions lilloises où Genesio, face à une équipe B voire C du PSG, avait mis un milieu de terrain supplémentaire. Là, c'est vrai que sur la première mi-temps, ils ont envoyé du football, un football vraiment spectaculaire. En deuxième, c'était moins le cas, ils ont été beaucoup plus en difficulté, mais ils ont réussi à piquer avec l'entrée de Dylan Bakwa, et ils envoient quand même un message positif. Lille, on a fait beaucoup de débats cette semaine, le manque de recrues, il faut réinvestir. Oui, c'est vrai, il faut réinvestir, mais il y a quand même, je trouve, dans cette équipe-là, une connexion sur les dernières années, avec une colonne vertébrale qui se connaît, Alexandro, André Bentaleb, Haraldsson, Giroud, et derrière, tu arrives à avoir le bon mix nécessaire, tu as des connexions, tu as un QI football, tu as une intensité qui va encore permettre à Lille de jouer les premiers rôles dans cette Ligue 1. Donc vraiment ce soir, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Lille.
Moi j'avais des gros doutes hein, quant à l'arrivée de Davide Ancelotti hein, qui a très peu d'expérience en tant que numéro 1 par rapport à Botafogo. J'avais entendu un ancien coéquipier qui m'avait dit que c'était pas un top top entraîneur. Bon écoute, ça n'engage que lui, mais c'est vrai que ce qui m'a montré.
Il vient de dire c'est un tout petit détail l'arbitrage.
Ouais, bah, c'est ouais, bien. Bah, c'est très bien dans sa communication. Il est serein, il est sain et je suis convaincu que si LOSC fait une bonne saison, ça sera à travers leurs exploits sportifs et pas ce qui se passe malheureusement des fois en dehors du terrain. Donc pour revenir à Davide Ancelotti, ouais, j'avais des doutes par rapport à lui et ce qu'il m'a montré sur les deux derniers matchs et notamment ce soir, parce que c'est vrai qu'au contre Angers, c'est difficile de juger contre une équipe qui était relativement plus faible que le LOSC. Mais la manière dont ils sont partis chercher, agresser, presser un Paris Saint-Germain qui, rappelons-le, est quand même l'une des meilleures équipes d'Europe, moi j'ai envie de dire chapeau. Hein. J'ai envie de dire chapeau aussi aux joueurs parce qu'on l'a dit, il y a des départs quand même importants, notamment celui de Boadi qui est quand même un top top joueur. Et quand je vois la manière dont ont répondu présent les tauliers, je parle d'un Olivier Giroud qui va avoir 40 ans, qui a absolument mangé Pacho et Marquinhos dans sa manière de garder le ballon, de décaler ses coéquipiers, notamment sur le premier but d'Aralson. Aralson qui enfin, en tout cas j'espère, va prendre pleine mesure de son talent. C'est sa quatrième saison, me semble-t-il, au LOSC. Lui qui est un top joueur, mais qui manque un petit peu de statistiques. J'espère sincèrement pour lui que c'est la saison qui le permettra en tout cas d'aller toucher les sommets et pourquoi pas d'être vendu derrière, d'être la prochaine grosse vente de Lille.
Il a tout voilà, pour
cette paire de milieux défensifs, Benjamin André, Ben Taleb. On parle de la jeunesse un petit peu du football moderne. Et les mecs, ils vieillissent et chaque année ils sont meilleurs et meilleurs. Ben Taleb avait été énorme la semaine dernière avec un Benjamin André qui avait été suspendu. Là encore ce soir, honnêtement, les mecs ils sont exceptionnels. C'est des super joueurs. Alors je me poserai peut-être la question.
Bon, Benjamin André pas passé loin quand même de la correctionnelle. Non,
Je veux dire, il est important.
Il peut prendre rouge. Hein.
Ouais. Il est important lorsqu'il faut garder le ballon. Le collectif lillois a été très très bon. Alors c'est pareil sur Ngoy. Moi j'avais des doutes l'année dernière au début de saison quand j'avais Chancel, quand il y avait Aïssa Mondi, je savais pas à quel niveau Ngoy allait arriver. Et la réalité c'est qu'il a fait une Coupe du Monde énorme avec la Belgique et ça devient aujourd'hui le taulier de cette défense lilloise avec un Alexandro qui j'espère va retrouver son niveau d'avant grosse blessure. Pourquoi pas l'équipe nationale, ça on sait pas. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, je trouve qu'ils ont une épine dorsale.
Et encore sur la première mi-temps, je trouve que Correa leur fait beaucoup de mal.
Oui, bien sûr.
Parce que Correa, les pieds sont pas à lui. Hein.
C'est là que j'allais en parler justement par rapport à cette jeunesse parce que il va falloir aussi ouvrir le dossier parce qu'il a fait un match incroyable. Alors bien aidé par le mauvais positionnement de Zaïre Emery, donc ça lui permettait de bien prendre la profondeur dans le dos de la défense du Paris Saint-Germain. Mais il a été énorme. Ce premier centre là où est-ce qu'il fait rouler de pied gauche, centre extérieur pour Olivier Giroud qui se fait contrer par Safouneuf. Non, aujourd'hui t'as quand même une équipe lilloise qui est incroyable. Alors il faudra voir avec l'accumulation des matchs, les semaines à 2 ou 3 matchs avec la Ligue des Champions. Et encore une fois, je parle souvent de ce département, en tout cas de ce domaine de l'axe défensif. T'as quand même une profondeur de banc qui est quand même plus que limite, et notamment en défense centrale avec les départs de Mbemba et Aïssa Mandi. Je sais pas comment Ngoy et Alexandro vont digérer autant de matchs.
Les deux, c'est fiable.
Ouais, mais autant de matchs,
ouais, Walid, Ngoy, le prochain transfert à 50 bâtons.
Quand tu joues un match par semaine, quand tu vas accumuler les matchs avec la Champions, avec les blessures, avec l'équipe nationale, peur que le LOSC risque d'être un petit peu à court. C'est aussi pour ça, je terminerai, que je conseillerais en tout cas à Olivier Letton, je ne sais pas si j'ai des conseils à lui donner, mais d'utiliser la vente de Boadi pour essayer en tout cas d'aller rechercher un ou deux mecs de manière à pouvoir un peu fournir le banc de touche du LOSC.
Et peut-être un gardien aussi, on en reparlera parce que Zor, pour moi, ça reste quand même peut-être plus profond de cette équipe là.
Steve, ils ont pris Gilles là, non?
Oui, ils ont pris le gardien de l'équipe du Paraguay. Peut-être pour le concurrent, on verra ça effectivement. Steve est avec nous, supporter du LOSC. Merci d'avoir patienté, Steve.
Ouais, pas de souci. Salut les gars.
Salut Steve.
Steve, tu étais au stade ce soir?
Ouais, je viens de revenir là.
Bon, ça va, le trajet était pas trop long?
Non, on aimerait mieux que le stade y soit à Lille, hein. Ce serait plus logique, mais bon, il y a Villeneuve d'Ascq.
Bon, il n'est pas très loin quand même, il n'est pas très loin, Steve. Ouais. Et puis il est beau votre stade.
On est toujours fermé, c'est embêtant le toit, non
débat, hein. Moi, tu me dis de retourner à Clément Préjoris, j'y retourne. Hein.
Ah oui, non mais là c'est autre chose.
Alors les gars, moi je voudrais parler de plusieurs choses.
Vas-y.
Alors, la première, sur le résultat, on va dire qu'on est déçu par rapport à la physionomie du match. Mais avant le match, moi, j'avais dit à mes enfants, le but, c'est de faire un bon match, même si on perd, mais de faire un bon match et pas se prendre 7-1 comme on avait pris une année, là. On a fait un bon match. On mérite de gagner le match parce qu'il y a Giroud qui bouffe la feuille de match 2 fois. Il y a Correa, je sais pas comment il a raté l'action aussi en première mi-temps. Mais par contre, moi, je voulais souligner tactiquement, techniquement. J'ai vu des mouvements, en fait, parce que je suis derrière le but, en fait, en hauteur. J'ai vu des choses tactiques incroyables, on va dire à l'italienne. Et en fait, Tout à l'heure, j'ai entendu Davide Ancelotti qui disait c'était un petit détail. Non, 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 non. Moi, je vais commencer à discuter clairement de Monsieur Watelier parce que, et je vais être poli parce qu'on est à l'antenne, il y a des enfants qui nous écoutent, mais vous imaginez bien que j'aimerais bien dire des mots d'oiseau parce que ce mec-là, contre Lens, voilà, vous avez compris. Contre Rennes, c'est là où il fout un bordel avec l'étang et tout ça. Là, en fait, j'ai vu à un moment, en fait, il y a Berkeozer. Je sors un peu du détail du match. Il y a Berkeozer, en fait, qui veut faire un dégagement de 6 mètres. Il va chercher le ballon derrière. Dès qu'il rentre, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça commence. Corner. Bon, bref. À la fin, les gars, comment on explique qu'on a 3 minutes d'arrêt de jeu?
Mais André, il doit prendre rouge.
Non, mais attends, parle-moi pas de carton.
Non, mais André, doit prendre rouge.
Non, mais attends, écoute, 2-1, ça fait 2-0, 2-1. Il y a 3
minutes
d'arrêt de jeu.
Il peut siffler faute sur le premier but.
5 minutes d'arrêt de jeu. Alors, pourquoi il y a 5 minutes d'arrêt de jeu?
Il y a faute d'Engoy sur Ferran Torres. Il
faut arrêter de se cacher derrière la main droite.
Non, mais non. Tu parles d'un fait de jeu.
Tu prends 2 buts en 3 minutes.
Eh, les gars.
Écoute, il y a des décisions arbitrales qui ont été quand même bien plus, contestable que ce qui s'est passé ce soir.
Aligne-toi sur le coach, aligne-toi sur le coach, il te dit que c'est des détails.
Sinon tu vas t'arracher les cheveux toute la saison.
Mais non, mais là t'es frustré là.
Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais mais à ce moment-là, c'est un fait de jeu et il va en avoir, ça va s'équilibrer dans la saison. Mais le problème, c'est qu'avec ce monsieur là, ce Watelier là, à chaque fois il y a des problèmes. Et au final, à la fin, au lieu de finir le match une bonne fois pour toutes parce qu'on a dépassé les 5 minutes, maintenant ce monsieur, il a bien
pris. Et Ozer, il met 45 secondes dans le temps additionnel.
Et puis certains te diront qu'il y a aussi faute sur le premier but de Lille.
Mais c'est ce que j'ai dit.
D'accord. Les gars, de toute façon, quand c'est Paris, vous trouvez.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Je suis en train de me désinguer sur l'histoire du stade il y a deux minutes. T'écoutes pas.
Je pense qu'il faut être modéré. Alors autant que l'arbitrage va être critiqué. Autant que l'arbitrage va être critiqué toute cette saison, là, honnêtement, c'est pas forcément flagrant.
J'ai pas entendu ce qu'il a dit.
Non, Walid, il précisait juste qu'il vienne de dire que le Paris Saint-Germain ne méritait pas de recevoir le Rennes, tu sais, dans la polémique de l'inverse.
C'était une honte, c'était une dinguerie. Donc sur le PSG, t'inquiète pas, on a aucun problème à critiquer quand il faut critiquer. Sauf que la réalité, si ce soir, en plus on a parlé de la super première mi-temps de Lille, moi j'ai envie de parler d'Ethan Mbappé. Moi j'ai pas envie de parler de l'arbitrage. J'ai envie de parler d'Ethan Mbappé qui encore une fois montre que c'est pas comme certains peuvent le penser le pistonné du football parce que il a un blaze qui est très très important avec Mbappé qui lui a permis d'arriver au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, moi la première mi-temps qu'il fait, bah sincèrement, si on doit ouvrir le dossier, bah ça devient très sérieux cette histoire. Vraiment, moi ce mec-là me parle footballistiquement. Il y a 2-3 palettes, la Ligue 1 plus à la mi-temps, qui montre tout ce qu'il fait sans le ballon pour avoir le ballon plus haut sur le terrain. Il a une connexion avec le reste de son équipe. Il a un grain footballistique qui me plaît. Maxime en a parlé tout à l'heure. Il te fait un double contact là sur l'occasion de Giroud, qui est incroyable. Il a même des cannes, alors que moi je l'avais vu milieu de terrain en jeune avec le PSG.
Ah bah,
et son passé de milieu de terrain relayeur lui permet aussi de pouvoir dézoner, de pouvoir partager le ballon. C'est un joueur généreux. Sincèrement, moi j'aime beaucoup ce que propose Ethan Mbappé. Je vous le dis, et ça peut être sa saison.
Par contre, la finition.
Oui, mais
là, c'est vraiment
bien
la,
évidemment,
c'est
il
la marge de progression.
Il a une marge de progression. Il est encore jeune, mais ce qu'il montre, sincèrement, c'est très fort. Moi, j'ai été choqué. Moi, je suis agréablement surpris par la marge de progression, par ce qu'il fait au quotidien dans cette Ligue 1. Contre Angers aussi en première mi-temps, ça avait été bon. Il marque contre l'OM quand même. L'année dernière, il est dans les bons coups de l'ouverture du score contre l'OM. Contre le PSG, il égalise aussi. Non, mais ça. Ah ouais. Il faut quand même en parler de Ethan Mbappé. C'est pas un petit joueur, quoi. C'est pas un petit joueur.
30 secondes.
Ouais, non, parce qu'on a toujours tendance à être très très dur avec les joueurs qui sont frères ou fils d'eux. Et c'est vrai que pour le coup, là, Ethan Mbappé, il a une sacrée étiquette en étant le frère de Kylian. Je pense que la grande différence, c'est son repositionnement sur les côtés. Et c'est vrai qu'il a été très très intéressant, notamment les courses dans le dos de Zaire Emery. Alors, j'étais assez surpris de le voir d'ailleurs assez rapide. Enfin, je savais qu'il avait des cannes, mais à ce point, c'était vraiment surprenant. Mais c'est vrai que dans son QI football, dans la manière dont justement il lève sa tête pour aller chercher ses coéquipiers, honnêtement, tu vois que c'est un joueur de très haut niveau. Alors, c'est encore très tôt pour te dire quel genre de carrière il va faire, mais je ne serais pas surpris qu'il prenne de l'épaisseur cette saison et qu'il puisse être un élément important du LOSC.
Il a 19 ans, hein, c'est un 2006. Hein. Il a 19 ans.
On a hâte de voir la suite, évidemment, pour Ethan Mbappé. De partout, donc, entre Lille et le Paris Saint-Germain, c'était le gros match du soir de cette deuxième journée de Ligue 1. Le PSG qui a arraché le match nul dans le temps additionnel grâce à Marquinhos et Vitinha, alors que Bakua et Haraldsson avaient permis à Lille de mener 2-0. Dans un instant, l'actu mercato du jour, avec encore du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye notamment, avec du Marseille, avec du Nice. Et puis, on ira en Allemagne parce que le Bayern faisait ses débuts en Bundesliga ce soir. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
Avec Olida Cherchour, avec Maxime Chano, avant de parler du Bayern qui faisait ses grands débuts en Bundesliga. Juste quelques infos mercato pour vous dire, c'est une information RMC Sport. Ibrahim Mbaye va donc quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre Aston Villa. Il va passer sa visite médicale ce samedi. L'accord porte sur un contrat de 5 ans, montant du transfert 55 millions d'euros. Et dans la foulée, si Barcola signe pour 140, le Paris Saint-Germain aura vendu pour 300 millions d'euros.
Bravo le PSG.
Cet été. Balerdi en route vers l'AS Rome. Les deux clubs sont en discussion, on parle d'un prêt avec option d'achat. Balerdi est d'accord avec la Roma. Ça pourrait donc être le prochain
départ.
C'est
très bien pour lui, pour l'Olympique de Marseille. Par contre, j'ai très peur, moi, du deal. On va attendre ce qui va se passer, mais le prêt avec option d'achat, va falloir voir quelle est l'option d'achat, si elle est obligatoire, s'il y a des conditions à cette option d'achat. Va falloir être très très attentif, parce que moi, je répète, mais sur le dossier Pacheco, Timber ou même Balerdi, on parle quand même d'un international argentin, d'un ancien international brésilien, parce que Pacheco, je crois qu'il a une sélection, enfin il a déjà été appelé, il a une cote, et Timber qui est international hollandais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on parle pas des petits joueurs, quoi. Ils ont tous moins de 30 ans. Donc si c'est pour faire la grande braderie, très bien. Mais à un moment, quand tu sors ces joueurs-là, faut quand même maîtriser les sorties et se faire respecter quand même en tant que club. Donc je suis attentif, mais j'ai très très peur.
Et vous pouvez écouter la réaction de Grégory Lorenzi sur le mercato. Il a même annoncé qu'il y aurait peut-être pas de recrues à l'OM.
C'est ce qu'on a expliqué depuis une semaine dans l'after.
Je pense pas que ce soit forcément une grosse perte pour l'Olympique de Marseille, d'autant qu'avec un Kondogbia et un Gan Riley derrière, ça fonctionne plutôt bien.
On en reparlera évidemment de l'OM.
Plus problématique si Pacheco devait partir.
On en reparlera dimanche avec le Monaco Marseille. Et puis sachez que les discussions sont avancées entre Mohamed Amoura et l'OGC Nice pour un prêt avec option d'achat pour l'attaquant algérien qui a été relégué de Ligue 2 avec Wolfsburg.
Très bien pour Nice, mais Amoura, la trajectoire, on l'attendait beaucoup plus haut après Wolfsburg, et ça reste quand même décevant de le voir à Nice. Mais ça va être une curiosité. C'est un bon coup pour remplacer Mohamed Ali Chaud.
Juste pour que vous sachiez bien, c'est bien l'entraîneur adjoint du LOSC qui a pris le carton rouge et non pas Benjamin André à l'issue de la rencontre. Voilà, c'est une information de Jean Baumel. On part en Allemagne, on parlait justement de Mohamed Amoura et de Wolfsburg. Polo Breitner est avec nous. Salut Polo.
Bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde.
Que faut-il retenir, Polo, de l'entrée en matière du Bayern face à Stuttgart, deux futurs adversaires du LOSC en Ligue des Champions?
La machine bavaroise est toujours là, malgré certains doutes, notamment au début de rencontre. Le premier quart d'heure est pour Stuttgart, qui d'ailleurs, il y avait un marquage individuel sur Harry Kane assez impressionnant, puisque même quand Harry Kane vient défendre à 10 mètres de Manuel Neuer, on trouvait le défenseur central Chabot qui était avec lui, donc ça, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 30 ans. Et ce qui est impressionnant, en fait, c'est le fait que le Bayern ne doute jamais. Il marque 3 minutes après l'égalisation de Stuttgart, avec notamment une passe extraordinaire de Kimmich. Et on a l'impression, non pas de voir des matchs de football, mais ce sont des matchs de boxe où tu peux, sur certains rounds, te mettre au niveau du Bayern, mais le Bayern ne baisse jamais d'intensité et Stuttgart a explosé à l'heure de jeu, donc même les remplaçants, je pense à Saïbari qui est rentré à l'heure de jeu.
Justement, j'allais te lancer sur Saïbari parce que je l'ai pas trouvé très au point physiquement. Par contre, il est un peu dans bon point encore, non? Il est pas fit, non?
Bah déjà, on savait pas en début de saison où on allait le placer, etc. On le vit plutôt comme un joueur polyvalent en fonction évidemment de ses performances, et ce qu'il a réussi là sur la demi-heure était assez impressionnant quand même.
Donc il est impliqué sur les derniers buts du Bayern. Ouais. Un petit
mot
sur
Kane, et Harry Kane n'a pas marqué.
Ouais.
C'est quand même assez extraordinaire.
Par contre, Upamecano a marqué.
Alors Upamecano a marqué, et justement sur coup franc, donc c'était impressionnant pour débloquer la situation. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un Olise là qui est stratosphérique depuis le début de l'exercice. Techniquement, on le surnomme le nonchalant. On le surnomme le nonchalant. Ouais, mais il faut qu'il fasse les mêmes choses dans les grands matchs.
Oui.
C'est vrai, c'est parce que c'est bien de lui donner le ballon d'or avant d'avoir gagné des grands matchs.
L'année dernière, quand même, à l'aller contre le PSG, il fait un énorme match. Au Bernabeu, il fait un énorme match aussi.
Ouais, mais sur l'ensemble de la saison, Harry Kane est largement meilleur.
Ok. Donc,
et là, on le voit techniquement parler. On le surnomme le nonchalant en Allemagne parce qu'on arrive à du mal à voir ce qu'il fait.
Ça se dit comment, ça, en allemand?
nonchalant comme en français.
Ah d'accord, d'accord.
C'est pour ça que je me perds. Mais en fait, c'était impressionnant parce que on se pose pas la question de ce qui va gagner la Bundesliga évidemment en 2027, mais l'année dernière, il y avait déjà 16 points sur Dortmund et surtout c'est la polyvalence des joueurs, la façon dont ils sont motivés. Là, il y avait Davis qui était au poste d'arrière gauche, Pavlovic, Kimmich qui fait un match monstrueux sur le but de l'égalisation de Wagnermann, Neuer qui te fait un arrêt extraordinaire juste avant. Enfin, il y a c'est assez impressionnant le collectif de cette équipe bavaroise, j'ai envie de dire version Vincent Kompany 3.
Et un petit mot sur Stuttgart que Lille va également affronter, ce sera d'ailleurs en Allemagne.
Ça va être compliqué, je pense, pour Lille, parce que Stuttgart n'a quasiment perdu personne. Et le score de ce soir, c'est pas qu'il est sévère, parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'es pris un ou deux supercutes, t'exploses. Encore une fois, le Bayern marque à la 92e, alors qu'il y a déjà 4-1. Mais Sébastien Lyonnais n'était pas content après la rencontre, mais c'est une très très belle équipe et ils seront, avec le tirage qu'il y a eu en Ligue des Champions, je pense qu'ils seront au minimum dans les 16.
On a hâte de voir ça, évidemment, la double confrontation. Un dernier mot, Polo ?
Non, c'est assez impressionnant ce qu'on a vu ce soir, parce que tout le monde est effaré par la prestation bavaroise et surtout une forme de résilience. Quand ça ne va pas, tout de suite, hop, ils se remettent la sauce et c'est un truc assez impressionnant, quoi.
On regardera évidemment tout ça et puis l'After Allemagne est disponible également avec un épisode sur le retour de Christopher Nkunku à Leipzig. Merci, Polo. Bonne soirée à toi. Bon week-end de Bundesliga. Merci, Walid.
Et merci Jérôme, merci à tous.
Merci Max.
Salut à tous, bonne nuit.
On se retrouve demain soir les garçons.
À demain.
La deuxième journée de Ligue 1 continue évidemment avec au programme notamment le match de l'Olympique Lyonnais et cette déclaration aujourd'hui de Paulo Fonseca qui se dit être le meilleur entraîneur des dernières années de l'Olympique Lyonnais. On verra ça notamment demain soir. L'After revient très vite. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Ciao, ciao.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.